D'accord. Mais nous avons, et mon devoir ce matin est d'ouvrir la bonne parole de Dieu, qui est le pain solide dont nous devons nous nourrir. Nous serons encore ce matin dans l'urgence. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de cette vérité qui est que Jésus sauve. Vous connaissez ces quatre vérités que sont Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et la quatrième, Jésus revient. Et c'est de cette vérité dont je voudrais vous entretenir ce matin, à savoir que Jésus revient. Notre lecture se fait dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à compter du verset 13. Chapitre 4, verset 13 de 1 Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus revient, je viens bientôt. Ce qui peut aussi se traduire par je viens soudainement. Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus, Apocalypse 22, 20. Ainsi se concluent nos Bibles. Étonnant. C'est plus étonnant encore lorsqu'à la relecture de ces mêmes textes, pour ma part, 45 années après, ces textes suscitent dans mon cœur la même résonance, à savoir que Jésus revient. On attache de l'importance aux dernières recommandations ou volontés exprimées par un être cher qui nous quitte. Jésus en a eu tout le loisir et nous a précisé que cet enlèvement de l'Église ferait l'objet d'importants préparatifs. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3. Notre texte, celui qui s'est affiché il y a un instant que nous avons lu ensemble, se conclut sous la forme d'une exhortation qui nous donne une idée de l'importance de cette vérité quand il est dit « consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce peut être parmi nous le cas de quelqu'un qui a perdu un être cher récemment, qui a du mal à faire son deuil et qui a besoin de savoir que un jour, cette personne sera réunie à cet être cher. Ce peut être le cas pour nous qui nous désolons de voir le monde dans l'état où il est, qui chaque jour apprennent des choses effroyables, chaque semaine a son lot de mauvaises nouvelles. Ce peut être une consolation que, à un moment donné, pour nous, cela va cesser, puisque Jésus vient enlever son Église. Ce peut être pour des papis, des mamies qui ont des petits-enfants, ou des parents qui ont des enfants, et qui se disent, mais dans quel monde vont-ils grandir ? Monde redoutable, vous le savez, dégradé, corrompu, souillé, violent. Consolez-vous donc par ces paroles, Jésus revient. Voici, je viens bientôt, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Je fus choqué il y a quelques années par une sœur, qui était pourtant une sœur affermie dans la foi. Alors c'était vraisemblablement une boutade, mais quand même, qui avait des responsabilités dans l'église locale où nous étions. Et à un moment, alors que nous débattions de cette question du retour de Jésus, m'a tout simplement dit, mais ce peut être pour dans 10 000 ans. Je pense que le monde est mûr, que cela va devenir invivable sur cette terre pour les hommes, hommes et femmes, et que Jésus vient prendre les siens, ceux qui lui appartiennent. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, l'on parle moins du retour de Jésus, que cette pensée de la soudaineté de son retour n'est pas présente dans les cœurs. Ce retour prochain, soudain de Jésus n'est pas la préoccupation majeure de beaucoup de chrétiens. Et l'exhortation de la parole est là, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Luc 12, 40. Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, écrit « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera » concernant la couronne « dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui auront souhaité son avènement, qui auront chéri cette pensée, cette idée que Jésus revienne. » Monsieur Quen traduit ce verset de la manière suivante, « Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. » Ce que l'on aime, une idée que l'on affectionne, on le chérit. Honnêtement, mon cœur se porte facilement sur d'autres choses. Alors il est vrai qu'il n'est pas défendu d'avoir d'autres affections, mais la pensée de son retour, devrait être présente à nos cœurs et susciter de la joie. Sondons donc nos cœurs à cette idée que Jésus revient bientôt. Cette perspective vous réjouit-elle ? Amen. Cette perspective vous réjouit-elle de savoir que Jésus revient ? Moi, je voulais entendre. Hein ? C'était ça dans la Pentecôte d'où je viens. Alléluia, gloire à Dieu. Inconsciemment, repoussons-nous cette idée. Le fait de ne pas y penser, de ne pas en parler, ou d'en parler si peu est l'un des signes de son retour. Et il est du devoir des prédicateurs de rappeler cette vérité, puisqu'il est dit « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Luc 18, 8. Le fait de ne pas en parler n'altère en rien ce fait extraordinaire que Jésus revient sur les nuées du ciel pour enlever son Église. Il le fera sans poser ses pieds sur la terre, mais par un fort pouvoir d'attraction, il attirera à lui tous les siens. Si tu es prêt, mon frère, il t'attirera. Si tu es prête, ma sœur, il t'attirera à lui. Car le Seigneur Jésus lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Corinthiens 15, verset 51, précise sobrement comment cela se fera. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Il y a des précédents. Enoch ne fut plus, car Dieu le prit avec lui. Vous imaginez la surprise de Madame Enoch, qui avait envoyé son mari chercher la moutarde à l'épicerie du coin. Il n'est pas revenu. Elle attend la moutarde. Elle disparaît, Élie disparaît à la vue d'Élisée, emmenée sur un char tiré par des chevaux dans un tourbillon de feu. Des tombes s'ouvrent à la mort de Jésus, laissant échapper plusieurs des saints qui semblaient dormir de leur dernier sommeil. Ce matin, Jean-Marc, nous sommes, oui, dans l'urgence, car Jésus revient. L'urgence pour chacun d'être parfaitement au clair à l'idée que Jésus peut revenir à tout instant. J'ai entendu, nous entendons, frère, si vous saviez le projet qui me tient à cœur, il n'est pas possible que Jésus revienne avant que ce projet se soit réalisé. Frère Jean-Louis, j'ai un projet spirituel. Ah, ce projet magnifique. Je le chéris dans mon cœur, ça y est. Nous allons le concrétiser. Il n'est pas possible que Jésus revienne avant que ce projet soit concrétisé. Il y aura des constructions qui ne seront pas achevées, des extensions qui ne verront jamais le jour, des projets de voyage, de vacances, des projets de vie qui tourneront court, mes amis. Des prédications qui seront laissées en suspens, avec une partie de l'auditoire qui sera enlevée et l'autre pas. Avec des prédicateurs qui seront enlevés et d'autres qui ne le seront pas, mais qui auront vu plusieurs de leurs ouailles, disparaître de leur vue, parce qu'ils auront été enlevés. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meune, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est aux disciples que Jésus s'adresse. Dans un autre passage, Luc 17, 34, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Pour la plupart, vous connaissez mon témoignage. C'est par un songe relatif à l'enlèvement que je me suis donné au Seigneur. Ça s'est passé une nuit de juin 72, à Fougères, ce qui m'a amené à faire la paix avec Dieu, rapidement, à mettre ma vie en règle dans les 48 heures qui ont suivi. Il est bon d'être prévoyant, de faire des projets, de tenir des objectifs, d'entreprendre, de rêver, même ce n'est pas défendu. Mais l'essentiel pour nous qui sommes chrétiens engagés, enfants de Dieu, c'est d'être prêt pour l'éventualité de son retour. Savez-vous ce qui préoccupe le cœur de Dieu aujourd'hui ? C'est l'état de l'Église, c'est l'état de nos cœurs. Nous ne devons jamais perdre de vue que pour notre monde qui se perd, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, à savoir son unique Fils, Jésus-Christ. Et il a accepté de le voir mourir sur le bois infâme de la croix. Lors de la première venue de Jésus sur la terre, venu pour nous sauver, venu pour souffrir la croix, le cœur de Dieu souffre. Souffre de voir son Fils dans les tourments de la crucifixion, portant sur lui notre culpabilité d'hommes et de femmes pécheurs. Fils qui est écrasé par le poids de nos péchés et qui, de surcroît, comme si cela n'était pas suffisant, doit batailler avec les puissances du mal qui sont là réunies pour essayer de le troubler. La vue de ce Fils sanguinolent, injurié, frappé, est insupportable pour Dieu. L'on imagine aisément que le regard de Dieu, un instant, se soit détourné de lui pour ne pas voir. On comprend cette parole lorsqu'il est dit, lorsque Jésus s'écrie « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il nous est précisé qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre trembla, des tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints endormis se réveillèrent. Le voile du temple se déchira en deux. La terre tout entière, mes amis, a été impactée par la mort de Jésus. Pour ce retour soudain de Jésus venant sur les nuées du ciel enlever l'Église, le ciel ne sera plus en berne. Le cœur du Père et le cœur de Jésus seront en fête. Et le projet de noces appelé noces de l'agneau va devenir réalité avec un banquet donc, des tables dressées comme celles qui étaient dressées hier soir dans ce lieu, magnifiquement dressées. Des tables seront dressées où de prestigieux personnages de la Bible seront tous présents. Les Abraham, Isaac, Jacob et bien d'autres. Mais vous et moi, si vous croyez, amen. Vous et moi, si nous croyons. Alors, il est vrai, nous ne sommes pas cités nommément par notre nom dans ce livre. Non, mais il y a un autre livre, qui est le livre d'état civil du ciel, où nous sommes inscrits tous, et toutes, je l'espère, alléluia, où nous sommes inscrits, où nos noms sont écrits, le vôtre, le mien, si nous croyons que Jésus est notre sauveur. Oh, vous allez me dire, mes frères, déménager toute une église, n'est-ce pas un projet fou ? La folie de Dieu n'est-elle pas plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes ? C'est dire que Dieu est sage et que Dieu, nous l'avons chanté ce matin, est puissant, tout puissant. Toutes les entreprises de déménagement, les sociétés de transport aérien répertoriées dans le monde, réunies pour l'occasion, n'y suffiraient pas. Projet fou, perspective insensée, impensable, mais possible. C'est ce que je crois, parce que la Bible me le dit, mais possible si l'on se met du côté de Dieu, car à Dieu, tout est possible. Dieu peut tout. Alors, regardons maintenant ensemble ce qui peut motiver le cœur de Dieu et le cœur de Jésus. Et il est peut-être venu le moment de se poser la question, mais pourquoi Jésus vient-il à la demande de son Père enlever l'Église ? Les raisons sont multiples. Nous ne les verrons pas toutes. Je vous les cite, enfin quelques-unes. Nous épargner la colère de Dieu qui est à venir sur le monde. Nous avoir avec lui, autre raison. Nous faire découvrir son ciel qui devient notre possession. Nous rendre conformes à lui. Rétribuer ses serviteurs. N'y aura-t-il pas un tribunal des récompenses ? Célébrer les noces de l'agneau, nous en avons fait mention. Rétablir toutes choses comme au premier jour. Voilà, entre autres, toutes les raisons qui ont motivé le cœur de Dieu et celui de Jésus. Alors nous en verrons trois, si vous le voulez bien. Nous épargner la colère à venir, nous avoir avec lui, et la troisième, nous faire découvrir le ciel qui est notre héritage. Nous épargner la colère à venir. Il y a une colère à venir sur le monde, car Dieu ne peut laisser impunies les actions des hommes, actions coupables. Moïse ne dira-t-il pas « Éternel, éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la millième génération, qui pardonne le péché, la rébellion, l'iniquité, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants. » C'est dire que Dieu est miséricordieux, et j'ai plaisir à l'affirmer, il est plein de miséricorde, plein de bonté, nous l'avons chanté, de tendresse, d'affection pour chacun d'entre nous. Il nous aime. Il aime l'homme pécheur, il aime la femme pécheresse, mais il ne peut supporter le péché. Et il ne peut laisser impunis les actions coupables des hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve aujourd'hui, alléluia, et que Jésus revient. C'est avec insistance que nos Bibles parlent de la colère de Dieu qui se déchaîne à cause du mal et de l'injustice des hommes, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Éphésiens 2:3 ne nous désigne-t-il pas comme étant les enfants de la colère ? Mais pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, alléluia, appelés enfants de Dieu et pour qui il n'y a plus de condamnation. Vous ne dites pas amen ? Vous qui êtes enfants de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Amen. Celui qui croit à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement. Cela n'enlève rien à la réalité que Dieu peut se mettre en colère, et cette colère s'est déjà exprimée dans le passé, dans des événements tels que le déluge, tels que la ruine soudaine de Sodome et Gomorre, et dans bien d'autres occasions. Oui, Dieu peut se mettre en colère, mais je serais un bien piètre prédicateur, si j'arrêtais là mon propos. Ce serait faire fi de cette affirmation de Jean 3,16 que vous connaissez tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'on ne peut toutefois passer sous silence cette pensée que le temps de la grâce de Dieu va soudainement prendre fin par le retour de Jésus. Jésus vient enlever les siens, c'est la résurrection d'entre les morts pour ceux qui dorment, car tous ne ressuscitent pas. Et nous les vivants sommes changés et enlevés. Plus tard viendra une autre résurrection pour juger les vivants et les morts, n'ayant pas eu part à la première résurrection, est-ce clair ? Au rythme où tout se dégrade, cela va devenir très vite invivable pour les hommes, hommes et femmes, mais plus encore pour les chrétiens, de subsister dans ce monde. Ce processus de destruction est engagé, vous le savez, associé à la bêtise des hommes et à la méchanceté des hommes, ce qui va rendre notre terre invivable. Aussi, Dieu ne peut nous laisser là plus longtemps. C'est pourquoi Jésus revient. Vous savez, lorsqu'un orage éclate dans la montagne, que vous avez vos enfants avec vous et vos petits-enfants, vous allez tout de suite chercher à vous mettre à l'abri. Et là, vous allez vous mettre à l'abri, vous allez fermer les portes, les fenêtres, hein, et attendre que ça passe. Temps de la grâce. Toutes les fenêtres sont fermées. Toutefois, il n'y a qu'une porte qui demeure ouverte encore. Jésus ayant dit « Je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi. » Et aucune crainte, comme il n'y a pas d'autre ouverture, il n'y a pas de courant d'air. Hein. Mais la porte est ouverte pour que tous ceux qui le veulent, qui veulent se mettre à l'abri, qui veulent être en sécurité, puissent entrer. Jésus en est le chemin, Jésus en est la porte. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Deuxième point, nous avoir avec lui. Jésus vient nous prendre pour nous avoir avec lui, ce n'est rien moins que cela. Nous avons parlé de la croix tout à l'heure, et nous savons qu'il nous donne là la preuve de son amour. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes la fiancée de Christ qui doit devenir l'épouse de Christ. Et comme tout fiancé ou toute fiancée, hein, vous savez, un fiancé, il a qu'un désir, il a qu'une chose en tête et hein, il fait tout pour cela, c'est d'avoir la fiancée à ses côtés. Bien d'accord, hein. Jésus, son plus cher désir, c'est de nous avoir avec lui. Il dit « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Réalisons-nous toujours ce qui est écrit à notre intention. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé dès la fondation du monde. » Vous savez que tout ce qui vient d'être dit repose sur cette base de l'amour de Dieu que Dieu porte à chacun d'entre nous. Tout tout, absolument tout, repose sur l'amour de Dieu pour le monde, pour chacun d'entre nous. Alors, troisième point, nous faire découvrir le ciel. Dans 1 Pierre 1, versets 3, 4 et 5, je lis « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Un héritage nous attend. Nous sommes des gens titrés, nous, les enfants de Dieu. Nous avons entre nos mains un titre ayant toute validité, puisque le testateur est mort. Il est vrai, il est ressuscité depuis, mais n'empêche qu'il est mort sur la croix. Et le titre prend toute sa valeur. Alors, qu'est-il écrit dans ce titre que nous sommes, et ce titre, il est là, hein, vous l'avez dans les mains, je l'ai dans les mains. Ce titre nous dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ ou de Christ. Ce que Jésus nous demande, c'est d'avoir un peu de patience pour que nous ayons la pleine jouissance de ce titre, de cet héritage, pardon. Et que dans cette attente, nous sommes gardés par la foi. Je sais, Seigneur, que tu me réserves cet héritage, qu'il est si merveilleux, si important, que je ne peux l'évaluer, le définir. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi tu m'en parles dans ton livre, de manière plus ou moins allégorique, pour que je puisse m'en faire une toute petite idée. Je sais que tu en règles les moindres détails, jusqu'à m'y préparer toi-même la place qui me revient, celle qui m'est attribuée. Selon qu'il est dit, je vais vous préparer une place. Lorsque cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors, description de cet héritage, et je bénis Dieu pour les dons spirituels qui sont exercés dans ce lieu. Il a été question d'une Jérusalem céleste. Eh bien, il y a la présence d'une ville aux murailles de jaspe, aux 12 portes faites chacune d'elles d'une seule perle, avec une place au pavé d'or transparent. Une ville où il n'y a ni réverbère ni candélabre. Les gens de la lune, les distraits, n'ont aucune crainte de... Hein? Voilà. Car il n'y aura plus de nuit, est-il précisé. Dieu lui-même et Jésus en seront la lumière. Un fleuve traverse cette ville avec un arbre bien particulier planté près de ce fleuve. Arbre dont il nous est dit qu'il donne du fruit en permanence, soit les 12 mois de l'année, et que ses feuilles ont des vertus guérissantes pour les nations. La pratique du péché n'y a plus cours. Les voleurs, les impudiques, les menteurs n'y ont pas de place. Ils sont frappés d'ostracisme. Aussi, il ne s'y fait aucun mal. Ça, c'est merveilleux. Il ne s'y fait plus aucun mal, aucun tort. La violence n'est plus, c'est en pleine sécurité que ses habitants, les habitants du ciel, y vivent. Un modèle de société dont je suis sûr que vous rêvez de temps à autre. Eh bien, ce modèle de société, ne l'attendez pas sur la terre, car il est dans le ciel et nous sommes destinés à le vivre. Une rêverie, le ciel de Dieu, non, une réalité. Et nous en sommes les futurs résidents, je vous renvoie au livre de l'Apocalypse. Devinez la joie de Jésus. Devinez sa joie lorsqu'il va nous faire découvrir le ciel de son Père. Ah, il va dire, regarde Jean-Louis, regarde Michel, regarde Irina, Hervé. Mais regardez, mais n'est-ce pas ce que je vous avais dit ? C'est à vous. c'est votre héritage. C'est pour cela que je suis mort sur la croix. C'est pour cela que j'ai donné ma vie, comme vous avez bien fait de croire et de persévérer dans la foi véritable. Et puis je vais conclure, peut-être. Il y a longtemps, à peu près 40 années, vous voyez, ça remonte, hein, j'ai fait un songe. Alors, Dieu parle longtemps à l'avance, et la parole garde toute sa véracité si la prophétie tarde à s'accomplir. Hein. Soyons bien, bien persuadés de cela, que si la prophétie tarde, elle s'accomplit toujours. J'ai fait un songe qui, aujourd'hui, là, dans les semaines précédentes, voit sa concrétisation dans une démarche que nous avons entreprise, Agnès et moi. Et quel est ce songe ? Eh bien, nous étions à plusieurs frères et sœurs, aux fenêtres de maisons hautes, comme cela se faisait dans le passé. Vous savez, ces grandes maisons dans les petits villages qui sont en bordure de rue, en alignement. Nous étions aux fenêtres quand, tout à coup, au bout de la rue, nous avons vu arriver plusieurs cavaliers. Ils étaient magnifiques. Et leur monture était tout aussi magnifique. Ces cavaliers sont arrivés à notre hauteur, donc nous étions aux fenêtres, à quelques chrétiens. Nous avons vu ces cavaliers arriver. Et ils se sont arrêtés. Et ils nous ont pressés de questions relatives au salut ou concernant la personne de Jésus. Et c'est alors avec simplicité et avec joie que nous nous sommes mis à leur annoncer la bonne nouvelle, à savoir que Jésus sauve et qu'il revient. 40 années de cela. Peut-être ces choses sont-elles en train de se concrétiser. À l'évidence, ces personnes étaient prêtes pour le salut. Il n'y avait plus qu'à les cueillir ou recueillir, comme l'on cueille des épis qui sont mûrs pour en faire de belles gerbes au temps de la moisson. Cela m'avait semblé, à l'époque et aujourd'hui plus que jamais, comme étant cette moisson de la dernière heure, celle qui précède le retour de Jésus. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est Jésus qui parle, Jean 4, verset 35. Pourquoi ce songe m'est-il revenu clairement à l'esprit alors que je préparais ce message ? Je n'ai pu m'empêcher de faire le lien avec cette prophétie donnée dans ce lieu, il y a quelques semaines, j'y reviens, qui était de dépasser nos limites, qui était de franchir un cap, qui était d'aller au-delà de nos frontières, car il est dans la nature de l'homme de mettre des limites, de se replier sur lui-même, de se protéger, de ne penser qu'à lui, de refuser d'entreprendre. Caractéristique de notre époque dont il nous est dit que les hommes seront égoïstes, que le monde se comporte ainsi, le regarde. Mais le chacun pour soi n'est pas l'esprit de l'Évangile. On est bien d'accord ? Le chacun pour soi n'est pas l'esprit de l'Évangile. Évangile auquel nous disons tous à adhérer, vous et moi. Hein ? S'il y a des personnes qui se disent adhérer pleinement, faire leur l'Évangile, c'est bien nous. Eh bien, nous ne pouvons pas être de ceux qui disent qu'il y ait cet esprit, cette mentalité, oui, mais chacun pour soi. Que nous dit Jésus ? Allez, faites de toutes des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je vous dis, frères et sœurs, je me le dis à moi-même, car j'ai besoin aussi de dépasser mes limites, celles que je me suis fixées, les frontières, franchir un cap, mais je crois que nous l'avons fait. Je vous dis, allez, faites de Kevin et ses environs des disciples. Faites de Kevin et ses environs des disciples, mais cela va vous amener à sortir, à aller au dehors, parce que c'est là que les âmes sont et elles se perdent. Alors, je conclus, où en sommes-nous? Où en êtes-vous, frères et sœurs? Ensemble, réfléchissons, sortons, avançons, témoignons. Prenons garde de faire du coucouning. Osons. Pourquoi vous ai-je exhorté ainsi? Parce que le temps presse, que c'est là un signe que Jésus est à la porte et qu'il revient. J'ai retenu ce que notre frère Jean-Marc Taubois nous a dit, il y a déjà longtemps de cela, qu'il avait eu un frère qui avait eu une vision où il voyait la main de Jésus sur la clenche de la porte. Jésus est à la porte. Et là, il sera revenu. On est bien d'accord? Jésus revient. Les épis sont mûrs, la moisson blanchie. Allons-nous laisser les prédateurs de tout poil s'en emparer? Quand le maître va revenir, nous trouvera-t-il au travail, c'est-à-dire veillant, priant, témoignant, actif ou endormi? Es-tu actif? Es-tu endormi? Suis-je actif? Suis-je endormi? C'est la question qu'il nous faut nous poser ce matin, car Jésus revient. Amen.
Merci.